Donc, les Actes des Apôtres, et au chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Et le sujet de notre entretien sera les trois réactions possibles sur la réaction de la résurrection de Christ. Trois réactions possibles sur la résurrection de Christ. L'apôtre Paul se trouve à Athènes et il fait mention de la résurrection. Et vous allez voir dans ce passage combien les réactions des gens sont semblables à ceux d'aujourd'hui. Finalement, les êtres humains n'ont pas changé. Donc, Actes chapitre 17, et je vais commencer à lire au verset 16. Comme Paul les attendait, donc il attendait Paul et Silas, il les a laissés à Bérée. Paul venait de prêcher à Thessalonique, et là, les Juifs, comme il avait du succès auprès des Grecs et puis certains autres, les Juifs sont devenus jaloux, et donc lui ont créé des problèmes, et il a dû quitter Thessalonique. Et il était allé à Bérée, là il a trouvé des gens qui étaient plus nobles, et il le dit, il dit que eux, ils écoutaient, et puis ils vérifiaient dans les Écritures si ce qui leur enseignait était vrai. Mais quand les gens de Thessalonique ont su que Paul était à Bérée, ils sont arrivés et puis ils ont commencé à mettre le trouble. Et donc Paul, eh bien les frères ont mis Paul sur un bateau et puis il a pris par la mer, il est allé à Athènes. Et Silas et Timothée, ses compagnons, ben, ils ont pris la route par la terre. Et donc il est allé à Athènes et puis il attendait qu'ils arrivent. Donc verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un même sang habitent sur toute la terre, la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux, de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Voilà, donc c'est une prédication un peu différente de la part de Paul. Il avait l'habitude, et non, ce qu'on lit chaque fois, c'est des discussions avec des Juifs, donc il cite beaucoup l'Ancien Testament. Mais là, comme c'était des gens qui n'avaient aucune culture de l'Ancien Testament, eh bien, il va leur parler autrement. Mais toujours le même message. Hein, c'est le même message, même si il le présente de manière à ce que eux peuvent comprendre. Hein, c'est extraordinaire. C'est Dieu qui fait l'effort. Hein, c'est Jésus-Christ qui est devenu homme. C'est Dieu qui fait l'effort de mettre ses pensées et les exprimer avec le langage des humains. Hein, c'est imaginer un philosophe qui essaie d'utiliser le langage d'un enfant de 3 ans et qui essaie d'exprimer des pensées, c'est avec un vocabulaire très limité. C'est un peu la difficulté que Dieu a eue pour essayer. Quand il nous a parlé, il nous parle avec les mots que nous avons, les concepts que nous avons, et il essaie de nous parler. Et puis alors, après, on s'étonne qu'on ne comprend pas tout, mais bon, vous comprenez sa difficulté. Donc Paul est là, il est à Athènes et il discute dans la synagogue avec des gens qui ont venu, mais il va aussi sur la place publique et puis il discute avec d'autres personnes. Et parmi les autres, il a rencontré ces philosophes épicuriens et stoïciens. Les épicuriens et les stoïciens, c'est quelque chose qui existait depuis 300 ans à Athènes. C'est originaire d'Athènes. Et puis ce sont des philosophies qui sont encore étudiées de nos jours. Leur but principal, c'était le bonheur de l'homme. Je crois qu'il y a des gens qui croient à ça aussi encore aujourd'hui. Hein. Leur seul but dans la vie, c'est le bonheur. Bon, la différence entre les stoïciens et les épicuriens, c'est qu'ils l'abordaient, le cherchaient par des moyens différents, mais l'objectif, c'était le même. Et c'est pas forcément des hédonistes, c'était pas le plaisir sensuel qu'ils cherchaient, mais le bonheur de l'être humain, et de nos jours, il y a encore ceux qui cherchent ce bonheur-là, par un moyen ou par un autre. Et Paul a discuté avec eux. Il y a un moment, là, vous voyez au verset 18, quelques-uns des philosophes stoïciens se mirent à parler avec eux. Les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Le mot discoureur, là, c'est un peu péjoratif, c'est un peu méprisant, parce que dans un sens, ils l'ont mis dans la catégorie des personnes qui circulent et qui glanent des idées par-ci, par-là, et puis qui ramassent tout ça, puis qui essayent de paraître intelligents. Et c'est un peu comme ça qu'ils l'ont vu. Tellement il avait des idées qui n'étaient pas, qui étaient nouvelles, et puis alors ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce discoureur? Il le voyait parler de Jésus, il parlait d'un certain Jésus, il parlait d'une résurrection, il parlait de des choses qu'il disait, mais ça leur paraît, c'est pas le contenu d'une philosophie et de quelque chose d'intelligent comme eux discutaient tout le temps. Et les Athéniens et tous les étrangers qui habitaient à Athènes, eh ben, ils nous disent qu'ils passaient tout leur temps à discuter. Donc, ils étaient tout le temps à la recherche de nouvelles idées pour en discuter, pour en débattre, peu importe si on arrive à une conclusion. Ce qui se fait encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Beaucoup de discussions, on étudie la philosophie, puis à la fin de compte, quand on a fini, je ne sais pas trop ce que je crois. Hein, j'ai plus de questions maintenant que quand j'ai commencé. Et c'était un peu la situation là. Et puis l'apôtre Paul, eh bien, on lui dit, bon, écoute, nous, par principe, nous, on est ouvert à tout. Donc, vas-y, parle. Hein, de nos jours aussi, hein, on dit, ouais, on est ouvert, on est très ouvert. Il dit, c'est vous les chrétiens qui êtes vraiment fermés, bornés. Mais nous, on est ouverts. Bah, essayez de leur parler de Jésus, vous allez voir combien ils sont ouverts. Et alors, il s'adresse à eux, et puis alors, nous avons cette discussion, et rapidement, là, parce que, bon, c'est, je pense que ça doit être un résumé, là, de ce que nous avons. Et il va leur présenter d'abord, il dit, vous êtes porté vers l'adoration des divinités, vous en avez beaucoup, j'en vois partout. Et puis ensuite, il dit, et puis surtout, j'ai remarqué que vous en avez un que vous appelez l'inconnu. Vous n'avez pas ce sentiment d'avoir découvert tous les dieux et il y en a un qui est inconnu. Il dit, justement, je veux vous parler de celui qui est inconnu. Et après, il leur dit, écoutez, ce Dieu, verset 24, ce Dieu-là, c'est celui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et il n'habite pas dans des temples. Il dit, tous les autres divinités, ils ont leurs autels, ils ont leurs temples, ils ont leurs prêtres, ils ont tout. Celui-ci n'a pas de temple. Tout vient de lui. On ne peut rien lui apporter. C'est lui qui nous donne. Il n'a pas besoin d'être servi par les mains humaines, puisque c'est lui qui nous donne la santé, la force, pour pouvoir servir. Il n'a besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne la vie, il nous dit au verset 25, la vie, la respiration et toutes choses. C'est lui qui pourvoit. Et après au verset 26, et c'est un verset auquel beaucoup s'accrochent, il dit, on est tous sortis d'un même sang. Hein, plus la science va, plus on se rend compte qu'on est tous d'un même sang. Et il n'y a pas de race, il n'y a qu'une humanité. Et il dit, écoutez, c'est comme ça, parce qu'on est tous issus de lui. Et les habitants, tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Et c'est lui qui décide, c'est lui qui fixe les temps et les lieux où nous demeurons. Mais au verset 27, il a dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Il a dit, c'est vrai que pour certains, c'est une recherche, mais dans le noir. On ne sait pas trop où on va, c'est en tâtonnant, c'est en essayant, on essaye ceci, on écoute cela. Et il dit, oui, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on le cherche. Parce qu'il dit, celui qui cherche, trouve. Si on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver. Il dit, cherchez. Et c'est vrai que, et moi j'aime beaucoup écouter les témoignages des uns et des autres, parce que chacun a eu tout un autre parcours à chercher. Il y en a qui ont cherché longtemps, il y en a qui sont passés par des voies très sinueuses, il y en a qui sont passés par des philosophes, il y en a qui sont passés par des religions, il y en a qui sont passés par des églises, il y en a qui sont passés par... en niant tout et ont tout essayé. Il y en a qui essayent même, on voit bien rien, qui se font un cocktail de beaucoup de choses. Ils captent des idées par-ci, par-là, et puis ils mélangent tout ça, et puis ils font un cocktail. Mais il dit non. Il dit cherchez jusqu'à ce que vous trouviez ce Dieu-là, celui qui est à l'origine de tout. Celui qui a tout créé, celui qui maintient le tout et celui qui décidera de la fin de tout. Il dit car, verset 28, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et il est en train de parler comme un philosophe là. Et ce sont des réalités. Et la philosophie, la vraie philosophie n'est pas contre la Bible. Dieu c'est le philosophe numéro un, hein. Et il suffit de lire l'Ecclésiaste, par exemple, et vous avez un philosophe extraordinaire. Et ce qu'il dit, ça tient debout encore aujourd'hui. Hein, donc Dieu n'est pas contre. Après, il y a des gens qui ont des philosophies, mais ils essaient d'éviter certaines réalités, puis ils se contourner, et alors ils arrivent à des problèmes. Mais la vraie philosophie, hein, l'amour de la science, c'est Dieu, c'est lui le premier, hein, qui nous encourage dans ce sens. Et il dit quand on rencontre ce Dieu-là, on n'a plus besoin des autres. pas besoin, ils n'ont pas besoin de... il a dit, vous avez des dieux qui dépendent de votre art et de votre capacité de les former, soit en or, soit en argent, soit en pierre, mais ils dépendent de vous pour prendre une forme. Il dit, non, non, quand vous aurez trouvé le vrai Dieu, le créateur des cieux de la terre, tous les autres deviendront caducs. Et il dit, verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, parce que nous en avons tous eu, il n'y a personne qui est né croyant, ça n'existe pas. Porté vers la foi, oui, les enfants en général sont plus portés vers la foi que parfois les adultes. On devient incroyant et on devient croyant. Hein, c'est pas quelque chose que nous avons par la naissance. Donc on ne naît ni chrétien ni autre chose. Mais on naît dans une certaine culture, on naît dans une certaine pensée, on naît dans un contexte et souvent il a une grande influence sur nous. Mais c'est à nous de nous élever au-dessus de tout cela. Et donc il dit au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. » Donc, et lui, c'est un juif qui parle et qui dit « à tous les hommes hein, ». C'est nouveau pour eux, parce qu'en général, les juifs, ils disent « on est juif et si vous voulez arriver dans la vérité, il faut devenir juif ». Lui dit « non, Dieu parle à tous les hommes ». Et c'est le message de la Bible depuis toujours. « Tous les hommes, en tout lieu, » et dit « il y a une chose, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils se repentent ». Repentir, ça veut dire, c'est reconnaître son erreur. Ce n'est pas une question de mettre la faute sur quelqu'un, c'est ni de se sentir coupable. Hein, c'est pas un péché de ne pas savoir, d'être ignorant. Mais de rester ignorant quand on a accès à la connaissance, ça, c'est un autre problème. Il dit, ce qu'il demande, c'est de se repentir, de dire, ouais, je me rends compte que j'étais dans l'erreur, que j'allais dans le mauvais sens. Vous savez, c'est un peu... je crois que les hommes, ils ont plus un mal avec ça que les femmes. Vous savez, quand on arrive dans un endroit, monsieur et madame sont dans la voiture, on est en train de chercher une adresse, on ne trouve pas. Alors madame, elle dit, écoute, demande à quelqu'un. Non, on va trouver. Les messieurs, ils n'aiment pas demander. Ils aiment pouvoir trouver tout seul. Et alors, ils attendent jusqu'à ce qu'ils sont vraiment perdus, ils ne peuvent plus. Après, ils disent, bon, on va demander à quelqu'un. Tiens, chérie, tu vas aller demander ? Mais vous savez, l'être humain, il est un peu comme ça. Il veut, au lieu d'être aidé, il y a un moment où il faut, hein, on peut tourner en rond pendant tout le temps qu'on veut, mais il y a un moment où il faut s'arrêter et dire, je suis perdu, je me suis trompé, je ne sais pas où aller, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Et c'est là où on se tourne à Dieu. Hein, Paul, il est en train de dire, mais c'est le moment de se tourner à Dieu. Il dit, Dieu, écoute, je ne sais pas, j'entends plein de choses. C'est un brouillard autour de moi. Mais Dieu... Et il y en a qui ont même osé dire, et Dieu les encourage, ils ont dit, Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, eh bien, dirige-moi. On dit que tu veux tellement qu'on vienne. Eh bien, si tu veux que je te suive et que je te trouve, alors sors de ta cachette, révèle-toi. Et vous savez... Il répond quand c'est sincère. Il y en a qui disent, j'aimerais te rencontrer pour voir si je t'aime ou que je ne t'aime pas. Il dit, alors c'est pas la peine. Mais je veux, peu importe comment tu es, je t'accepte. Révèle-toi. Alors là, il se présente, il se révèle. Et en général, c'est en lisant dans la parole de Dieu qu'on le découvre. On peut déjà le voir dans la nature, c'est vrai. On peut observer beaucoup de choses. Et on peut regarder un être humain et dire, mais c'est quand même quelque chose. Celui qui l'a conçu doit être un peu mieux que celui-là. Et il dit se repentir. Parce qu'il a dit, après tout, il y a un jour qui est fixé où il faudra rendre des comptes. Il dit, Dieu vous a donné des capacités. L'être humain à cette capacité de se dire, mais je me demande si c'est ce qui va arriver demain ou dans 10 ans. les écolos, ils sont en train de penser, de dire, mais bon, pour nous, oui, on peut respirer encore, mais nos enfants, est-ce qu'ils vont respirer? C'est quelque chose qu'on peut. Les animaux, ils ne pensent pas à ça. Mais l'être humain arrive à se projeter, imaginer la situation. Eh bien, on se projette même dans l'éternité. On peut se projeter et puis on se pose des questions. Et alors il dit, écoute, je t'ai créé avec une capacité de réflexion, avec une capacité de te poser des questions, des bonnes questions. Je te donnais la capacité de pouvoir chercher, de pouvoir organiser, ordonner tes pensées. Il dit, ben alors, si tu as la capacité, fais-le. Hein? Parce que si tu as la capacité et tu fais rien, alors là, tu te mets dans une drôle de situation. Hein, c'est trop facile de dire, ah ouais, ben je suis agnostique, hein, je ne sais pas trop. Les agnostiques, comme on va voir, ils le sont pour des raisons pratiques. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Et vous remarquez qu'à la fin, quand Paul termine ici, parce que tout d'un coup, il parle de Jésus, il a dit, Jésus, il y a un homme qui peut vous aider. Et Dieu nous l'a fait reconnaître en le ressuscitant des morts, parce qu'il n'y en a pas 36 qui circulent. Donc, celui qui a été ressuscité des morts, c'est lui. Et il nous parle de Jésus. Mais quand ils ont entendu le mot « ressuscité des morts », tout d'un coup, boah, jusque-là, ils écoutaient. Et puis à ce moment-là, résurrection des morts, c'était la fin. Et c'est là les versets 32, 33 et 34 que je trouve, surtout 32 et 34. Il dit, voilà la réaction, les trois réactions. Il dit, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns, première réaction, se moquèrent. Les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. On remet à plus tard. Une deuxième réaction, qui est très courante. Et puis la troisième réaction, c'est au verset 34, il y a quelques-uns qui crurent. C'est devant la réaction, la résurrection, il y a trois possibilités. Les uns se moquèrent. Vous savez, c'est la moquerie. Je ne sais pas si vous êtes arrêté pour réfléchir un peu. J'ai un neveu, hein, le mari de ma nièce, qui est passé cette semaine et qui fait philo. Hein. C'est son truc, c'est la philo. Il enseigne la philo. Tout en étant pasteur, il enseigne la philo, hein, à l'université. Et je lui ai dit, écoute, la moquerie, la philo, qu'est-ce qu'elle dit? Et la psychologie, qu'est-ce qu'elle dit de la moquerie? Elle dit, oh, tout est son contraire. Parce que la moquerie, c'est une réaction qu'on trouve encore aujourd'hui, hein, et elle permet de rejeter une idée sans devoir avancer des arguments. Hein, quand on se moque de quelqu'un, on n'est pas obligé de dire pourquoi on n'est pas d'accord. Donc c'est pratique. On se moque, on rigole, on humilie, et puis on s'en va, et on n'explique rien. C'est une manière qui permet de montrer du mépris, et à partir du moment où on montre du mépris, donc on s'élève, donc moi je suis intelligent, et toi tu es nul. Hein, la moquerie, c'était une manière de dire cela. La moquerie permet de paraître intelligent sans devoir le démontrer. Donc c'est un truc facile, hein, c'est un peu lâche, la moquerie. À Nice, ils avaient un stand biblique la dernière, juste il y a vendredi, un stand biblique, et puis il y a quelqu'un qui est venu et qui a craché au visage de l'une des personnes qui était là en train de vendre les Bibles. Ben, le pauvre type, parce que c'est quoi cette réaction? C'est pas très intelligent, mais c'est une drôle de réaction. Mais la moquerie, c'est un peu ça aussi. C'est facile de se moquer de quelqu'un, surtout quand on est plus nombreux que... Hein, quand on est 10 et puis il y en a un, et ben c'est facile de se moquer de lui, quand on est majoritaire. Ces mêmes personnes qui se moquent, quand on les trouve tout seul, n'a rien à dire. Et donc se moquer n'est pas une réponse intelligente, mais c'est une sortie facile, hein, qui permet de... Bon, on s'en va. Hein. On se moque un peu, puis après on part. Et puis tout est bon, on est content de soi. Mais c'est pas une drôle. Mais ça se pratique encore aujourd'hui, hein, par des gens intelligents. Cultivés en tous les cas. Il dit les autres, il dit nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ça c'est un autre moyen de s'en sortir, sans avoir recours à la moquerie. Plus tard. Pour l'instant, je suis occupé, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais faire ma vie. Puis une fois que je serai à la retraite, j'aurai le temps de réfléchir et je pourrai voir ces choses-là. C'est une manière de se tirer de la situation, de partir, de ne pas prendre de décision. Et beaucoup ont recours à cela. Mais le problème, c'est qu'ils ne reviennent jamais. Il dit, pour l'instant, on reviendra là-dessus une autre fois, et puis l'autre fois, ça ne vient jamais. Et parfois, ils ont peur de prendre une décision parce qu'ils ont peur de ce que ça va entraîner comme changement dans leur vie. Et en général, les idées qu'ils se font de ce que c'est qu'être chrétien, c'est des gens malheureux, c'est des gens qui peuvent rien, ils ne peuvent pas s'amuser, ils ne peuvent rien faire. Ils ont cette idée, ils disent, mais moi je veux pas, moi je suis un peu, je veux du plaisir dans la vie. Hein? Mais un vrai enfant de Dieu, il n'est pas malheureux. Il est heureux, et ce qu'il fait, il le fait avec plaisir. Il a de bonheur, il est disposé à partager. Surtout quand il est animé par l'Esprit de Dieu. Des fois, il y en a qui portent le nom de chrétiens, qui ne sont pas trop animés par l'amour de Dieu. Ça, c'est un autre problème. Mais celui qui est vraiment animé par l'Esprit de Dieu, eh bien, non seulement il a ce qu'il lui faut, mais il a de quoi donner aux autres. Et on a peur aussi, on a peur de devenir chrétien parce que c'est exclusif. Hein, les Athéniens, ils étaient prêts à recevoir tout et n'importe quoi, mais pas prendre quelque chose et puis rejeter le reste. Et de nos jours aussi, on trouve des gens qui ont peur de la Bible parce que c'est exclusif. Mais vous savez, je ne vous apprends rien quand je vous dis que la vérité est exclusive. Hein, la vérité, elle est toujours exclusive. Moi, à l'école, j'avais des bonnes idées dans mes rédactions, mais je n'avais pas toujours des bonnes notes. Pourquoi ? Parce que, non, 2 et 2, ça ne fait pas 5, n'importe comment, c'est tout. C'est gentil et tout, mais ça ne fait pas 5. Ce qui est vrai est exclusif, il n'y a qu'une seule réponse. Mais la vérité, on peut construire avec. Quand on a les scientifiques, ils réfléchissent, ils étudient, ils font des tests et tout ça, et quand ils arrivent à quelque chose qui leur permet d'établir une loi, ben, c'est sûr, c'est exclusif de toutes les autres idées qui ont circulé avant. C'est exclusif. Mais avec ça, ils arrivent à faire du chemin, à aller de l'avant. Et donc, il ne faut pas avoir peur de la vérité. La vérité, c'est une bonne chose. Et l'être humain, finalement, il est fait pour. Et notre monde est basé sur des lois vraies, sûres. Bon, il y a ceux qui se sont moqués, il y a ceux qui ont dit, bon, on mettra ça plus tard, et le plus tard ne vient jamais. Et puis après, il dit, mais il y a quelques-uns qui s'attachèrent à lui et crurent. Et ici, il y a même deux personnes qui semblent être connues, parce que Denis, l'aréopagiste, donc c'était quelqu'un de connu. Damaris apparemment était connu, c'est pour ça qu'il donne le nom. Et puis ils me disent les autres aussi, des gens moins connus, mais qui ont aussi cru. Eux, quand ils ont entendu, ils ont reçu. Et ils ont placé foi. Et nous, dans l'histoire de l'Église, eh bien, ils nous disent que finalement, Denis est devenu l'évêque d'Athènes, de l'Église d'Athènes éventuellement. Et il est mort en martyr. Mais bon, là, c'est... Mais il a cru. Et ça, c'est la troisième réaction. Résurrection des morts, ben, ce n'est pas quelque chose que je comprends, parce que non, ce n'est pas naturel, c'est contre toutes les lois de la nature. Mais, mais la foi me permet d'accepter des choses que l'intelligence ne peut pas. Et la foi me permet d'aller plus loin que l'intelligence. Parce que parfois, ce qui peut passer entre nos deux oreilles, ça réduit le monde. Tandis que la foi nous donne un univers vaste. Et je peux entrevoir beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de bêtises qui se disent au sujet, sous le domaine de la foi. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le problème humain. Hein. Les hommes, ils prennent n'importe quoi pour en faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je reviens à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, je peux le croire. Et je construis dessus. Et je suis assez pragmatique pour dire, ben, écoute, je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça marche, mais je l'essaye. Et si ça marche, eh ben, moi, je suis partant. Même si je n'ai pas compris pourquoi ça marche. Vous savez, de nos jours, on ne sait encore pas ce que c'est que la lumière. On ne sait pas si c'est matériel ou si c'est une onde. On ne sait pas trop ce que c'est que la lumière, mais bon, on s'en sert beaucoup. Hein. Et vous savez, il faut être assez pragmatique, dire, bon, je ne comprends pas, mais si ça donne les résultats promis, ben moi, je vais. Et il y a tellement de choses dans la vie qu'on fait ça. On exerce la foi tout le temps. Pourquoi pas exercer la foi avec ce que Dieu nous dit ? Paul dit, il dit à ses Athéniens, il dit, écoutez, vous avez beaucoup de bonnes idées, vous avez vraiment développé la capacité de réflexion à un point qui n'a pas été surmonté depuis. Hein. Ça, c'était avant Jésus-Christ, 3e siècle, c'est les stoïciens, c'était le 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais il dit, la réponse est Dieu. Allez un pas au-dessus. Allez, celui qui est à l'origine de ce dont vous vous entretenez. Et nous sommes, et le message que nous avons, c'est Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. Je ne sais pas comment sa mort sur la croix il y a 2000 ans peut me délivrer de mes péchés aujourd'hui. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment sa mort, sa résurrection affecte ma résurrection. La seule chose, c'est qu'il n'y a personne qui a présenté quelque chose de mieux, une meilleure théorie. Et celle-là, il y en a d'autres qui m'ont devancé et qui ont vécu des bonnes vies pleines. Et comme disait un des professeurs que j'avais à l'Institut biblique, et je termine avec ça, il dit, je crois à la Bible et je crois à tout ce que ça dit. Il dit, mais si jamais un jour, j'arrive à la fin de ma vie, je me rends compte que c'était faux, eh bien, je serai quand même content parce que j'ai vécu une bonne vie. Et dit, et si j'arrive à la fin de ma vie et que c'est vrai, eh bien, je suis prêt. Il dit, finalement, je suis content comme ça. Et que le Seigneur nous aide. Hein, peu importe le temps d'ignorance dans lequel nous avons vécu, peu importe les trajets, les recherches et les combien de fois nous avons été déçus par l'un ou par l'autre. La question, c'est de trouver Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand on l'a trouvé, ça me suffit. Nous allons passer un moment de prière. Et dit, quelle est ma réaction à l'enseignement de la résurrection ? Si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, ne vivons pas comme si la résurrection de Christ n'était jamais arrivée. Paul écrit aux chrétiens de Rome, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ, que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si je crois vraiment que Christ est mort, donc ça change ma vie. Je dois vivre autrement. Que le Seigneur nous aide. » Je donne quelques moments de silence, après quoi je prierai.